Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Quel tourisme en Biovallée ? Épisode 2, le tourisme apprenant, ici pour l'ailleurs. Je crois qu'on y est. Pour que ça dure, il va falloir apprendre. Apprendre quoi ? Et comment ? C'est bien l'enjeu de ce que nous avons à mettre en œuvre, et cela d'une manière très globale si l'on veut que l'horizon reste vaste et désirable, comme dirait ma petite sœur. Le tourisme ne pourrait s'inscrire dans un développement durable que s'il est apprenant. Ou alors, c'est parce qu'il est apprenant que le tourisme pourrait être durable. Et quand on parle de durée, de durabilité, on interroge spontanément ce temps nécessaire pour apprendre. Il nous en faut du temps, n'est-ce pas ? Et pour ce qui est de notre sujet, il en va des accueillants, des voyageurs, des arrivants, venus là, puis repartis. Qui sait, peut-être pas pour longtemps. Et puis qui sont celles et ceux qui pensent, qui rêvent d'un autre tourisme ? Un tourisme résilient ou souhaitable, comme on l'a entendu dans l'épisode précédent. Dans la vallée comme sur le plateau, les professionnels du secteur se croisent et se répondent, érigent des horizons. Épisode 2, le tourisme apprenant, ici pour l'ailleurs, une réalisation Erdiwa, la radio du Diwa.
Si tu dis à quelqu'un tu es un touriste, c'est pas vraiment...
Ah ouais.
Tu
ouais,
vois ?
Bonjour. Et voici l'expresso. Et ainsi que le crème.
Et en même temps, on utilise les mêmes mots.
Ça fait 4 euros, s'il vous plaît. Super, en vous remerciant, monsieur.
Pour expliquer quelque chose qui pourrait être un peu écolo, qui est durable, qui...
Ouais, je crois comprendre ce que différent. Tu veux dire.
Est-ce que c'est un problème qu'on n'a pas trouvé un autre mot ou... Même si le tourisme durable ne l'accepte pas, c'est vraiment une partie de... Comment on dit là ?
Le départ, les vacances.
Le départ, les vacances, les ferries, l'envie de découvrir. Tout ça.
Se lever à l'aube et prendre la route.
Nous sommes des Bretons qui venons visiter la Drôme.
Des Bretons retraités. Donc forcément, on a un petit peu de temps.
Avec notre petit van et la moto, on adore se promener dans toutes les petites routes avec tous ces virages qui sont superbes par ici.
C'est la nature, c'est le côté sauvage ici parce qu'on voit que c'est un endroit quand même peu peuplé et donc où la nature est encore préservée. Donc c'est ce qu'on cherche.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes venu ici chercher une certaine inspiration ?
Inspiration, l'inspiration du calme, de la zénitude peut-être, ce serait bien, parce que c'est ce qu'on aime dans nos vacances, se promener et pas voir trop de monde. Voilà.
Moi je viens pour voir, découvrir, écouter, regarder les gens vivre.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous êtes venu faire du tourisme aussi pour vivre des émotions ?
Ah ben ça, tout le temps. À chaque fois qu'on visite quelque chose quelque part, forcément, on a des émotions, souvent très positives d'ailleurs. Hein ? Et on espère en avoir plein ici.
Est-ce qu'on pourrait penser du coup que ces émotions que vous allez vivre ici, ben, vous allez certainement les emporter avec vous et qu'elles, comment ?
On va les emporter et on va les transmettre aussi parce qu'on a de nombreux amis qui sont un peu sur le même style de vie que nous, c'est-à-dire qui se baladent beaucoup et on va les inciter à venir si le bilan est positif. Mais ce qu'on a déjà vu de la Drôme en 2 jours, là, voilà, ça va nous pousser à faire de la pub. Et on nous a conseillé de venir ici déjà. Donc voilà, on va faire un relais publicitaire, on va dire.
Bon, un relais publicitaire pour un tourisme, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on l'appelle durable ?
Ah ben complètement, parce qu'on a l'intention de revenir certainement un jour, et deux, parce qu'on aimerait bien que nos enfants et nos petits-enfants viennent aussi découvrir ce coin qui est pas mal.
Rappelle-toi les bords de rivière, les chemins au loin et les soleils couchant derrière les montagnes. À perte de vue, les hauts plateaux.
Comment vous décririez la personnalité finalement de ce territoire ? Qui est-il, ce territoire du Vercors ?
Moi, je retiens en tout cas dans l'histoire du Vercors deux éléments, ou allez, trois éléments assez qui vont dire la diversité du Vercors.
Emmanuel Bosque, chargé de mission diversification touristique Parc naturel régional du Vercors.
Je trouve que le 19e siècle, le percement des routes est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un côté pionnier, il y a une libération d'un seul coup de ce massif. La création des routes, c'est pour au début l'économie et notamment le bois. Et puis tout d'un coup, on voit que ces routes deviennent un moyen d'accès. Elles sont en elles-mêmes, ces routes, des objets d'observation et d'étonnement. Le tourisme se met en place. La santé en général évolue, on va vers le climatisme. Donc avec le séjour en montagne pour les enfants qui souffrent d'affections respiratoires. Voilà, quelque chose se met en route à partir des routes, justement. On arrive à cette tragédie des années 39-45 où... Plutôt que la résistance, j'ai eu la chance de travailler sur le plateau des Glières, un autre plateau, on va dire, qui, en Haute-Savoie, qui a eu aussi ses heures sombres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je retiendrai plutôt le mot que ce sont des endroits, les Glières ou le Vercors, où on a fêté la liberté. Je pense que c'est vraiment, il y a eu un choix assumé de dire non et de s'organiser autour et d'assumer. Et donc jusqu'à en payer le prix, voilà. Mais on a fêté la liberté, et ça, je trouve, c'est une identité qui est extrêmement forte. Et le mot Vercors, s'il résonne bien à l'international, c'est sur cette dimension essentielle de la liberté, je pense, voilà. Après, c'est les mélanges de population, je trouve. On a une population qui a été vertaco, et qui a subi après beaucoup de mélanges, je pense, les 70, 80, 90, 2000, des extérieurs viennent, s'installent, amènent des idées, font d'autres choses, et c'est bien aussi. Je dirais que le Vercors, c'est un beau laboratoire. C'est un beau laboratoire entre des... gens à la fois qui représentent la tradition, plutôt la mémoire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire d'où vient ce plateau, ce qu'il a vécu, et il faut jamais, jamais oublier ça, parce que sinon on va être condamné à revivre ces choses-là. Et puis, à l'autre bout, ben, des gens qui ont profité, dans le bon sens du terme, qui sont venus expérimenter ici des choses, et je souhaite que ça continue, parce qu'il faut de l'expérimentation, il faut des laboratoires, surtout dans ces périodes où on arrive, où on a tendance à retomber dans des noirs ou blancs, alors qu'en fait, il faut beaucoup de zones floues, où il faut accepter d'essayer, de se tromper, de tenter des choses. Et je pense que la moyenne montagne, elle peut être ce laboratoire, en tout cas, pour montrer que on a des phases de transition à passer et qu'on peut, en tout cas, on peut les tester dans le Vercors, je pense. Voilà.
Marcher, 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 marcher encore, marcher droit devant.
Voilà, et puis ici on a le petit salon où les gens aiment bien se retrouver.
Sandrine et Christophe gîtent la Sauvagine.
Le point lecture.
Pour bouquiner, il y a plein de BD, de livres.
On a le coin BD local avec notamment le dernier de Rochette sur la dernière reine qui se passe dans le Vercors. Voilà le dernier ours qui a été tué juste après la Première Guerre mondiale.
On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va.
Je suis Bénédicte Séguré, je travaille à l'agence de développement touristique de la Drôme depuis 11 ans maintenant. Sur un poste qui a beaucoup évolué en fonction des problématiques qu'on avait besoin de développer. Et ça fait depuis 2021 que je travaille de plus en plus sur le tourisme durable, puisque l'agence a souhaité répondre à un appel à manifestation d'intérêt de la part de l'ADEME, l'Agence nationale pour la transition écologique. Et nous avons donc répondu au Fonds Tourisme Durable pour être partenaire et accompagner les professionnels du tourisme. Donc moi, j'avais déjà un volet d'accompagnement des professionnels du tourisme plus sur la partie commercialisation, donc développer des produits touristiques, se faire connaître auprès d'agences étrangères, par exemple, ou proposer de la réservation en ligne. Et là, du coup, je continue l'accompagnement des professionnels, mais plus sur le volet transition écologique. J'avais des valeurs personnelles et puis j'avais un temps de travail que je pouvais accorder à ça. Et puis petit à petit, je me suis formée et j'ai continué d'accompagner de plus en plus de professionnels. Et on a reconventionné d'année en année avec l'ADEME. On se positionne aussi sur 2024. Donc l'idée est de continuer à moi-même monter en compétences pour pouvoir vraiment accompagner les professionnels dans leur transition. Donc là, dans le cadre du partenariat avec l'ADEME, ça passe par un accompagnement individuel au dépôt d'un dossier de demande d'aide auprès de l'ADEME. Mais j'organise aussi des actions collectives dans le but de professionnaliser les acteurs. Donc ça peut être des ateliers, des journées de formation. J'ai essayé de mettre en place aussi une forme de coaching pour les restaurateurs. Voilà, c'est ce genre d'action auquel je réfléchis pour essayer d'aider les professionnels. Le tourisme durable, il faut vraiment le lier au développement durable et à ses trois composantes, environnementale, économique et sociale. Donc le but, c'est d'avoir un impact sur le territoire qui soit vertueux d'un point de vue environnemental, social et économique. Donc il y a le lien avec les habitants, avec l'activité économique des opérateurs, des prestataires touristiques, et puis aussi bien sûr l'impact sur l'environnement. Donc l'idée est que on peut venir faire du tourisme dans la Drôme, mais tout en respectant l'environnement, les ressources, en essayant aussi d'optimiser les retombées sur le territoire, donc les circuits courts. On va travailler sur tout ça, donc tout ce qui est ressources, déchets, minimiser aussi l'impact en termes de déchets, donc des démarches biodéchets chez les hébergeurs par exemple, ou les restaurateurs aussi d'ailleurs. Et puis après, au niveau des économies d'eau aussi, on sait l'importance qu'elle a, donc c'est sensibiliser les visiteurs et puis aider les professionnels à leur échelle à mettre en place des actions pour minimiser les consommations d'eau.
Le coin vaisselle.
Oriane et Jody, camping La Clairette.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est le coin vaisselle. Du coup, c'est pareil. Là, le coin vaisselle, on voulait que les gens puissent admirer les montagnes en faisant leur vaisselle. C'est quand même un luxe pour un campeur de pouvoir faire sa vaisselle en regardant les belles montagnes de la Drôme.
Ouais, super. Ah, c'est grand là. Ah, oui. Donc moi je suis donc Boris Suissi, je travaille à l'office de tourisme du Pays d'Iwa, donc en tant que référent accueil qualité. Mon rôle en deux mots, ça va être de faire en sorte que les différents points d'accueil que nous avons soient fonctionnels. Donc ça va aller de la gestion de la documentation en passant par le recrutement, la formation de saisonniers. Et sur le volet qualité, on va être plutôt sur faire en sorte d'essayer d'améliorer la qualité au niveau des services, de nos propres services à l'office de tourisme, mais aussi ceux à échelle de la destination. Donc pour ça, on met en place des dispositifs d'écoute client. Donc on est à l'écoute des clients. Alors les clients, ça englobe aussi bien les locaux, hein, les habitants, que les touristes, évidemment, qui viennent nous rendre visite, et aussi tous les acteurs, donc tous les socioprofessionnels, tous les acteurs du réseau, on va dire, local. Donc ce que j'ai pas précisé, c'est que nous sommes un office de tourisme intercommunal. Donc nous dépendons de la communauté de communes et donc nous couvrons les 49 communes du Pays d'Iwa et nous avons 6 bureaux d'information touristique. Donc le bureau principal est à Die. Nous avons un bureau qui est ouvert toute l'année. Nous avons un second bureau aussi qui est ouvert l'hiver à Luz-la-Croix-Haute, puisqu'il y a une petite station à La Jarjatte. Et ensuite nous avons des bureaux qui sont ouverts de manière saisonnière à Luc-en-Diwa, Châtillon-Andiwa, La Motte-Chalancon et Saint-Nazaire-le-Désert. Donc voilà, on est à cheval sur le parc du Vercors et le parc des baronnies provençales. Voilà, ce qui est évidemment très très intéressant et qui fait partie aussi des atouts, on va dire, de notre territoire.
On part pour faire quoi ? On part d'un endroit pour y aller à un autre, pourquoi? Et du coup, si on donne des petites définitions à notre mouvement, après, c'est un peu plus facile de partir, tu vois?
Ben oui, ben, c'est un peu ça finalement. On essaye de trouver une destination, un sens, aller vers où? Droit devant? On passe quoi? On passe par la montagne, on va on traverse les océans?
Ouais.
Mais pourquoi, comme tu dis?
Ou par exemple, oui, pourquoi tu voyages comme ça et pas comme une autre manière? Parce que maintenant, je ne suis pas un touriste, je suis un voyageur pour ça. Ça sera une simple réponse.
N'oublie pas, nous sommes des explorateurs.
Vraiment, une des choses qui donne le plus de sens en fait à ce qu'on fait, c'est que des personnes qui arrivent ici repartent enrichies de connaissances, sensibilisées par rapport à des sujets et voilà, des étoiles plein les yeux, on va dire, et plein d'espoir aussi pour pas mal de choses. Et c'est vraiment ce qui nous anime, et ce qui nous anime aussi, c'est de faire en sorte que tout ce partage-là se fasse de la façon la plus douce possible, que ce soit pour l'environnement, pour les habitants, pour tout le monde. Alors évidemment, ce ne sera jamais parfait, c'est un travail éternel, éternel d'adaptation et d'amélioration, et il n'y aura jamais un aboutissement ultime, on va dire, mais voilà, il faut continuer à essayer de travailler dans ce sens-là et développer. Moi, je pense qu'on a une réelle carte à jouer, même au niveau du Diwa. Ouais, je trouve qu'on a un territoire plein de richesses et la plupart des gens, enfin la grande majorité des gens qui viennent ici, qui repartent d'ici, ils sont conquis, on va dire. Et voilà, on a cette carte à jouer, à maintenir, même à développer, à augmenter. Donc, ouais, c'est d'ailleurs ce qui nous est demandé hein, par les conventions d'objectifs qu'on reçoit, les stratégies qui nous sont demandées au niveau départemental, régional et local, intercommunal, vont totalement dans ce sens-là, quoi.
Comment,
Non, ça c'était plus à titre perso. Non, mais je pourrais te montrer moi ce que j'ai affiché dans mon bureau, qui est les axes stratégiques en fait, qui nous sont demandés par la communauté de communes. Je les ai relus juste avant mon interview, mais je suis pas pour autant capable de te les sortir par cœur. Mais ils sont très parlants, je trouve. Donc je peux aller chercher la feuille.
Ouais, merci. Ouais, carrément.
Vous écoutez Le Tourisme Apprenant, ici pour l'ailleurs. Une réalisation Erdiwa, la radio du Diwa, la radio du Diwa, la radio du Diwa, la radio du Diwa, la radio du Diwa.
Je suis une petite humaine qui fait son bout de chemin et qui s'est retrouvée à travailler aux Amanins. Sur cette question justement, ben voilà, du tourisme durable et apprenant. Moi, ça fait 3 ans que je travaille aux Amanins. Je suis directrice commerciale là-bas. Et je suis aussi ambassadrice du projet, membre du conseil d'administration de l'association Biovallée et éco-hébergeur.
Laura Grivet.
Alors les Amanins, c'est un centre agroécologique qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Qui est un projet assez unique en France. En fait, c'est un gros paquet cadeau, les Amanins, et à l'intérieur, on a plusieurs choses. Donc on va retrouver 3 structures pour 3 activités bien distinctes. La première activité, ça va être la ferme agroécologique sur laquelle on fait de la production, de la transformation pour atteindre aujourd'hui 80% d'autonomie alimentaire. Ça veut dire que 80% de ce qu'on retrouve dans l'assiette aux Amanins est issu de notre production. La deuxième activité, c'est l'accueil et la transmission. Donc on a un centre d'accueil touristique, mais aussi on ne fait pas que du tourisme. On accueille des séminaires d'entreprise, on accueille des classes découvertes pour les enfants et on accueille des formations. Et du coup, le centre d'accueil, c'est des hébergements assez atypiques parce qu'on a éco-rénové ou éco-construit la plupart en fait, de nos infrastructures aux Amanins. Donc on a des hébergements, on a des cabanes en bois, on a des lodges, on a un espèce de camping. On a 2 salles d'accueil et de travail et on a ce restaurant. Et la dernière activité dont je pourrais te parler pour décrire les Amanins, c'est l'école du Colibri. Donc cette école élémentaire, privée, laïque, inclusive et sous contrat avec l'État, au sein de laquelle on accueille 40 enfants par an entre le CP et le CM2. Et sur laquelle on va plutôt être sur une pédagogie qui est la pédagogie de l'apprentissage de la paix et du coup de la coopération.
Après, on a aussi beaucoup de documentation sur Terre Vivante, parce qu'on n'est pas bien loin de Terre Vivante. Donc là, on n'est plus dans le Diwa, mais on passe dans le Trièves, mais on est à 25 km d'eux.
Et puis voilà. Je vois donc l'incroyable histoire du vin. Oui, ouais. Vous servez aussi du vin à table.
Voilà. Alors, on est bourguignons. Alors là, on sert essentiellement du vin d'ici. Mais par contre, des fois, on a des stages ou des groupes qui nous demandent de leur faire une découverte de vin de Bourgogne ou de France. Et donc, et bah, du coup, on... voilà.
Est-ce que tu pourrais me décrire ce que concrètement vous proposez finalement à celles et ceux qui viennent passer des temps de vacances aux Amanins?
On leur offre l'opportunité de faire un voyage immersif au sein de la sobriété heureuse. On leur offre pourquoi immersif et expérientiel surtout. Parce que l'expérience, elle est partout aux Amanins. La pédagogie, elle est partout. Dans les infrastructures dans lesquelles on va vivre pendant ces quelques jours de vacances, dont je te parlais tout à l'heure, voilà... éco-rénover, éco-bâtir, après 18 ans, en fait, ben, on voit que ça tient encore la route. Dans chaque infrastructure aux Amanins, dans chaque chambre, il y a une porte ouverte sur l'extérieur. Tout nous amène, en fait, nous invite à se tourner vers l'extérieur, à rencontrer les autres. C'est un carrefour de rencontres, les Amanins. On va proposer une alimentation qui est saine, une alimentation qui est locale, ultra locale même, parce qu'en fait, elle provient de notre propre production. On propose aussi, pourquoi une aventure immersive aux Amanins, c'est des toilettes sèches à séparateurs sur l'ensemble du site. Donc en fait, on apprend aux gens aussi ce que c'est en fait la valeur en fait de la ressource en eau, par exemple. Donc on essaye de leur montrer le précieux de plein de petites choses à travers les infrastructures qu'on a aux Amanins. Et dans les animations qu'on propose, c'est vraiment très axé sur la coopération. Comment on se reconnecte à soi et aux autres, et comment on se reconnecte à la nature. Et comment on se reconnecte à la nature, ça va être plein d'animations tirées du catalogue de l'éducation à l'environnement. Ça va être le soin aux animaux, ça va être des balades nature pour aller en affût des petits signes en fait, de la faune, de la flore, de la reconnaissance des plantes utiles, des chants d'oiseaux, des traces de vie. On va pouvoir faire des abris à faune, on va pouvoir découvrir quelles sont les petites bêtes de la mare, les petites bêtes du compost. La gestion des déchets, les jeux coopératifs. Voilà, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de découvertes. On reconnecte avec son âme d'enfant. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est ça qu'on propose.
C'est l'endroit où il y a des tables, voilà, où on peut aller pique-niquer, par exemple.
Donc les voilà, gens se retrouvent. Nous, dans le camping, on a mis en place des tables de pique-nique. Alors au début, on voulait les implanter à des endroits spécifiques. Et puis, en discutant avec des collègues qui ont aussi un camping, il nous a dit non, les tables, vous pouvez les laisser en liberté, en fait. Elles se baladent, les gens les déplacent, elles font leur vie, en fait, dans le camping. Les gens, ils en ont besoin là, ils se réunissent, ils déplacent deux tables, ils font une soirée ensemble. Une soirée, ça, c'est pas jusqu'à 2h du matin, une soirée, c'est plutôt à 22h. Mais c'est vrai que ça fait partie de cette ambiance. Les gens déplacent le mobilier, ils font un peu ce qu'ils veulent avec. Ça fait partie de la vie du camping.
Voilà, et puis plein d'arbres. Alors,
tu peux me décrire là ce que c'est que ça?
Bon, donc là j'ai sous les yeux un document, on va dire qui...
Boris Huissy, office de tourisme du pays d'Iwa.
Qui nous donne des axes en fait de travail par rapport à nos différents services respectifs pour répondre en fait à la stratégie touristique qui nous est demandée par la communauté de communes du pays d'Iwa. Donc il y a 4 axes principaux. Le premier, le Diwa, une destination de nature qui se veut respectueuse. Donc on nous demande de communiquer sur le Diwa comme une destination de sport de pleine nature, respectueuse, et de valoriser toutes les manifestations en lien avec ça. Donc l'axe 2, le Diwa, un territoire d'expérience. Donc on nous demande d'impulser des expériences touristiques innovantes dans le domaine de l'agriculture. Donc il y a vraiment aussi un lien... On demande de créer un lien avec les agriculteurs, donc il y a cette notion de partage. Favoriser la rencontre touristes, producteurs et créateurs locaux pour encourager la consommation locale pendant leur séjour. Renforcer les synergies d'événements émergents. Et donner comme exemple l'échappée des rues, la transhumance, etc. L'axe 3, c'est le Diwa, un territoire respectueux de son environnement et de ses ressources. Sensibiliser les touristes à la préservation de l'environnement en lien avec les acteurs du territoire. Donner les clés de lecture du territoire au public novice. Développer des offres touristiques valorisant la mobilité douce, le train comme moyen d'accès à notre territoire, par exemple. Travailler sur le dernier kilomètre. Les déplacements sur le territoire sans auto, par exemple, valoriser touristiquement les actions de préservation de l'environnement et des sites classés espaces naturels sensibles ou les partenaires comme la LPO, par exemple. Puis l'axe 4, rendre les habitants acteurs dans le développement touristique. Renforcer le lien avec les élus, notamment en organisant des réunions d'avant-saison, des bilans de saison. Renforcer l'animation du réseau des acteurs. Donc ça, ça passe aussi par des journées d'échange, comme les rendez-vous de l'OT. On fait des éductours aussi, nous, en interne, c'est-à-dire qu'avec des saisonniers, on part sur des secteurs toute une journée, rencontrer des professionnels pour apprendre à mieux connaître et parler de notre territoire. Et on encourage aussi les hébergeurs, les prestataires d'activité à se professionnaliser. Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt cohérent avec, avec le, voilà, l'ADN de notre territoire et puis ce qui nous anime justement de sensibiliser vraiment à la richesse et la fragilité de ce qui nous entoure, quoi.
Vous êtes bien là, à l'écoute de « Il est une vallée » sur RDIWA ou RSF.
Marcher avec l'autre dans une ville inconnue.
Qu'est-ce que ça veut dire un tourisme imprudent? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça permet de votre point de vue?
Ça peut commencer tout simplement Bénédicte par Séguré. Sensibiliser les visiteurs une fois qu'ils sont sur place à des éco-gestes qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans le quotidien et puis les éveiller un petit peu à l'intérêt de faire ça, pourquoi on le fait, comment on peut le faire et puis prendre le temps en vacances de découvrir qu'on peut consommer autrement, qu'on peut manger autrement, qu'on peut minimiser son impact, qu'on peut limiter les ressources qu'on utilise. Enfin voilà, moi, pour moi, ça commence déjà à ce premier niveau en termes d'éco-gestes. Et je trouve que c'est intéressant aussi déjà que les hébergeurs puissent prendre conscience aussi du poids qu'ils peuvent avoir justement vis-à-vis de personnes qui, dans leur quotidien, ne pensent pas du tout à tout ça. Et puis après, on peut aller, bien sûr, beaucoup plus loin sur le fait de permettre aux gens de s'éduquer pendant leurs vacances à des sujets qu'ils ne connaissent pas. Ça peut aller d'une bibliothèque passionnante à carrément des visites pédagogiques ou inspirantes, sur des sujets très pointus qui peuvent être les énergies renouvelables, l'éco-construction. Voilà. Et quand on a sur des territoires comme les Diwa autant d'initiatives, c'est intéressant aussi de pouvoir les découvrir et de s'en inspirer.
J'imaginais que vous aviez Étienne Davodeau aussi.
Oui. On a la collection entière. Voilà, donc là, il y a sur le droit du sol, la BD qui raconte son parcours. Il part d'une grotte dans le sud-ouest. Alors, il se pose la question de savoir est-ce qu'il y avait un message derrière ces fresques. Et il va aller jusqu'à Bure, où l'homme creuse un trou à 500 mètres de profondeur pour enterrer des déchets nucléaires, en se disant, nous, qu'est-ce qu'on va laisser quand même au suivant ?
De la part des professionnels du tourisme, vous sentez qu'ils se saisissent de ces questions-là? Ça les intéresse? Quelles sont les réactions?
Bon, il y a diverses réactions. Il y en a qui font déjà beaucoup de choses et qui veulent en faire encore plus. Il y en a qui en font peu, mais qui ont l'impression d'en faire beaucoup. Tout le monde ne met pas le curseur au même endroit, en fait. Donc, ça dépend. Voilà, si on se positionne dans une démarche d'amélioration continue, il y en a qui ont toujours envie de faire mieux et puis d'autres qui ont plus de mal à se remettre en question. Mais l'idée, c'est bien d'essayer d'accompagner tous les acteurs. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que dans les accompagnements que j'ai pu faire, c'est souvent ceux qui, pour moi, étaient déjà assez inspirants, assez exemplaires, qui se posent encore beaucoup, beaucoup de questions pour toujours faire encore mieux. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Et voilà, après, j'aimerais bien que ces démarches-là puissent inspirer d'autres acteurs.
Alors, du coup, qu'est-ce que vous mettez en place pour toucher d'autres qui sont pour l'instant un peu sur la réserve ou d'une certaine manière peu impliqués sur ces questions-là?
Alors on essaye de les informer, on essaye de mener des actions de formation dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Alors bon, on n'aime pas trop sortir la carte réglementaire, mais il y a quand même déjà des fois un volet réglementaire qui peut nous aider à sensibiliser un peu plus, notamment sur le tri des biodéchets, avec l'obligation au 1er janvier 2024 pour tous les professionnels de trier les biodéchets et de trouver une solution pour les valoriser. On essaye aussi de mettre en place des webinaires. On voulait en faire sur les labels. On pense en faire un peut-être sur la démarche zéro déchet dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Puis après, ben, la démarche de BioValley est très intéressante pour nous parce que ils travaillent sur des outils qui pourront aussi peut-être nous aider à mieux faire connaître ce qui est fait par certains professionnels et puis pouvoir en inspirer d'autres. Donc, sous la forme d'un guide, on va pouvoir peut-être aussi s'en servir et puis le diffuser plus largement. À ce jour, je diffuse aussi beaucoup les démarches faites par d'autres organismes, comme l'ADEME, bien sûr, mais aussi, par exemple, le réseau Compost Citoyen, qui a fait un certain nombre de guides, justement, pour accompagner les professionnels dans le tri des déchets, enfin, des biodéchets. Donc là, on a une page, par exemple, sur notre espace pro, qui est entièrement dédiée à la transition écologique et que j'alimente au gré des études, des guides qui peuvent sortir sur tel ou tel sujet. Donc, c'est une vraie mine d'informations pour les professionnels qui veulent s'en inspirer. Et après, on essaye aussi, dans la base de données Apidae, qui sert pour informer les touristes, on essaye de qualifier un petit peu mieux ce que font les uns et les autres en termes de tourisme durable. Donc, l'idée, c'est bien sûr de donner une information concrète aux touristes, mais ça peut aussi permettre d'inspirer les autres professionnels quand ils peuvent voir ce que peuvent faire les confrères en termes de gestion des ressources, des déchets, de circuits courts, d'approvisionnement.
Le plus beau moment de la vie humaine est un départ vers des terres inconnues.
Le tourisme, ça pourrait être aussi de venir partager des moments de vie, simplement, et sans qu'il y ait d'argent entre les humains, quoi. On pourrait juste venir partager... un quotidien. Voilà.
Je pensais, du coup, le tourisme durable, ça pourrait être un voyage d'éthique. Pas un voyage éthique.
Un voyage éthique.
Éthique, tu vois?
Ouais.
Et du coup, pourquoi jusqu'à maintenant, on l'appelle le tourisme, on utilise le mot tourisme pour dire le tourisme durable, parce que le tourisme, c'est une industrie qui a quel objectif est l'argent. Et du coup, le tourisme durable, c'est le contraire.
Ça donne envie de voyager, ce que vous dites.
Ça, c'est l'idée de voyager avec notre imaginaire qui est quand même quelque part un pouvoir important qu'a l'être humain.
Suite au prochain épisode. C'était « Il est une vallée, le tourisme apprenant ». Ici pour l'ailleurs, une réalisation RDIWA, la radio du DIWA. Une série financée et coproduite par l'association BioVallée, avec Emmanuel Bosque, parc naturel régional du Vercors, Bénédicte Séguré, agence d'attractivité de la Drôme, Sandrine et Christophe gîte la Sauvagine, Boris Huissy, office de tourisme du pays DIWA, Oriane et Jody, camping La Clairette. Laura Grivet, centre agroécologique Les Amanins. Merci à vous toutes et tous de nous avoir confié vos voix. À bientôt. Okay.